que les auteurs américains parlaient beaucoup, en fin de compte, de l'impérialisme, et, enfin, consciemment ou inconsciemment, que c'était des thèmes qui étaient centraux pour tout le monde occidental, la colonisation en Europe et l'impérialisme actuel pour les Américains. Je me demandais si c'était quelque chose que, si vous êtes d'accord avec cette idée, ou si c'est...
A writer friend of the lady says that a lot of fantasy and science fiction European writers write consciously or unconsciously about colonialism.
Yeah.
While a lot of American science fiction and fantasy writers write consciously or unconsciously about imperialism. So it seems to be the dominant, if unsaid, theme of the genre. Do you agree with that?
I know a lot of writers write, you know, on the kind of pro-imperialism, you know, they're pro-imperialist, you know, like, I mean, a lot of people. I mean, as far as I know, you know, I'm one of the few people in the States who consciously, you know, as an anti-American viewpoint, you know, like, it's like, again, some really interesting arguments at conventions sometimes, you know, and, like, pretty violent, you know, not violent, like, but, you know,
verbally violent.
I think that's fair, you know, like, but, you know, most people, like, I'm really surprised that more people aren't overtly political in the United States, you know, like, everybody, when the elections come, everybody gets, you know, politicized, but then the elections go, and the right wing continues to do this, and then the left just goes to sleep, you know, I mean, they just, like, you know, fade out, like, the problem's solved, we got Obama in, like, you know, but, you know, I mean, all Obama was a corporate Democrat, you know, like Clinton, and so, I mean, it's like, they just think, we won, it's good, you know, so cool, you know, let's just go with it, but it's not good, you know, like, I mean, the same stuff is going on now that went on before, and, like, in more or less the same way, Guantanamo has not been closed, like you said, and, I mean, he's done about the same as Clinton, you know. I mean, he did some really remarkably destructive things, like the NAFTA agreement and things like that. I mean, it's like, so, I mean, I find it really odd that America can get all, you know, rabid about politics and every 4 years and then just goes away like it's some kind of football game, you know, that was, you know.
Wait for the finals and then go to
the
Et en fait, Didier Lucius, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup plus d'écrivains pro-impérialistes qu'anti-impérialistes. Il est un des rares, à sa connaissance, il est un des rares écrivains de SF, enfin du milieu de la SF américaine, à avoir un point de vue fondamentalement anti-américain. I think Stan Robinson is the other one.
Yeah.
L'autre, c'est Kim Stanley Robinson, il n'y en a que deux. Hein. Et ce qu'il. Donc, il est parfaitement d'accord avec votre remarque. Et là, il développe un peu en disant qu'il y a quelque chose d'endémique aux États-Unis depuis des années, c'est que tous les 4 ans, les gens s'affolent au moment où arrive l'élection présidentielle. Donc là, effectivement, les quelques Américains que l'on pourrait considérer comme à gauche se réveillent. Il y a des discussions très animées. Et puis, une fois l'élection passée, même si c'est un démocrate qui a été élu, la gauche se rendort en disant « ça y est, on a fait l'essentiel ». Et en général, le démocrate qui est élu, c'est un démocrate pour le système qui fait des choses aussi nuisibles, peut-être un peu moins, il y a peut-être des nuances, que le précédent républicain, quoi. Et donc, Obama n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, Guantanamo est toujours ouverte, elle n'a pas été fermée. Au bout de 4 ans, il n'a pas réussi à le fermer. Et à son époque, Clinton, président démocrate, avait beaucoup de mal, notamment avec le NAFTA, c'est l'ALENA, l'association, le traité de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique, et quelque chose d'essentiellement capitaliste. C'est-à-dire, un républicain n'aurait pas fait pire.
Comme on parle beaucoup de politique, comment ça se passe justement entre les auteurs américains? Est-ce que Quelle est l'ambiance un peu du...
Il disait, j'ai un peu sauté dessus, il dit ça donne lieu à des discussions intéressantes dans les conventions. Ils sont parfois très violents, enfin bon, ils n'en viennent pas aux mains, mais il est un des seuls à défendre ce genre de point de vue avec Kim Stanley Robinson, et bon, il y a peut-être deux ou trois autres.
Voilà. À tout à l'heure, c'était là.
C'est le gentleman has to work at the festival. You know? Okay.
C'est bon, je
vais l'assurer. So, yes, Jérôme wanted to ask which, some question which already you already answered in parts. How is the dialogue, talk between science fiction writers in the States regarding politics?
Well, I mean, there's very little. I mean, people are, you know, there's very little dialogue. There are people who publish opinions, but they don't take dialogue, you know. Like, I mean, it's, you know, when Orson Scott Card, you know, comes out, you know, every 5 or 6 months with an anti-homosexual or anti-this or something like that, but he won't discuss it, you know, like, and so there are a lot of people like that, and a lot of people hide their politics, and, but, I mean, the discourse is on a very low level. I mean, very, very basic, you know. And, you know, I think, you know, it would, like with the gun control thing, you know, I mean, they have these people on television all the time yammering about how guns, you know, the more guns, the more safe we are, you know, and stuff like that, which is, like, insane, man, you know. I mean, you know, it's like, you know, I mean, they have 300 million guns and handguns and rifles in America, you know, and like, you know, I think 5,000, 6,000 deaths a year. And I don't know what it is in France, but in England, it's like, you know, they have like 20 or 30, you know, deaths a year. And like, you know, I don't know the answer to that. But no, everybody wants to just yell at each other. It's like the news. How the news used to be the news. Now it's like, you know, here comes one guy on the left and one guy on the right, and just go further, and then that's it. Soundbite, you know. Yeah, so. But science fiction writers, I think a lot of science fiction writers are write militaristic science fiction because, like, that's what they grew up with. You know, like, they're just like, you know, following their, you know, what they read when they were kids, you know, like, you know, Robert Heinlein and people like that, you know, like, I don't think there's, I think there are a number of them that really don't have strong opinions, they're just writing, you know, the stuff, you know, like, that they know how to write, you know, they learned how to write, but, you know, I mean, there are not enough people, you know, writing the other stuff, you know, like, you know, so...
I'm going to translate. Yeah. Bah, en fait, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, que ce soit dans le milieu de la SF ou ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont des opinions, qui font des déclarations, des tribunes, etc., mais qui refusent le dialogue. Donc, dans le milieu de la SF, ici, Orson Scott Card, qui régulièrement, tous les 3 ou 4 mois, sort un nouveau texte anti-homophobe ou d'extrême droite, etc., mais qui refuse les discussions, qui refuse les interviews. Quoi. Bon. Et de façon générale, ils trouvent que le niveau de la discussion, des échanges, des débats est très mauvais, très, très basique. Bon, par exemple, le contrôle des armes qui revient régulièrement sur la table comme sujet, tout ce qu'on a droit comme en guise de discussion, c'est la propagande de la NRA, la National Rifle Association, donc, qui passe des pubs payées à la télé pour défendre le droit à être armé. Bon, et Lucius cite quelques statistiques. Donc, il y aurait 300 millions d'armes à feu aux États-Unis, 5 à 6 000 morts par an par des armes à feu, par des accidents, bon, par des gens qui se tirent dessus, etc. Alors, il ne sait pas quels sont les chiffres en France, mais il dit en Grande-Bretagne, c'est 20 à 30 morts par an. Donc, c'est effectivement totalement démesuré. Et quand il y a des débats, soi-disant débats à la télévision, en fait, c'est des engueulades organisées. C'est-à-dire, on prend le porte-parole de la droite, le porte-parole de la gauche, ils s'engueulent, c'est à cri-cri le plus fort, et le spectateur n'écoute que son camp, il n'écoute pas l'autre. Donc, il n'y a pas de dialogue. Quoi. Et pour la plupart des écrivains de science-fiction, selon lui, les écrivains de science-fiction d'aujourd'hui sont de droite, sont des écrivains militaristes. Pas nécessairement parce que c'est une opinion qu'ils veulent défendre, parce que c'est, ça correspond au milieu dans lequel ils ont grandi. La plupart des livres qu'ils ont lus quand ils étaient gamins, c'était de la SF militaire, c'était Robert Heinlein, Starship Troopers et autres, et donc c'est ça qu'ils reproduisent. Et c'est vrai que, explaining a bit for the French context, on connaît très peu ça en France. Bon, on connaît quelques séries comme Honor Harrington, etc., mais par rapport à ce qui se publie aux États-Unis, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a beaucoup plus de bouquins comme ça qui sortent aux États-Unis, qui ne sont pas traduits en France, parce que la plupart d'entre eux sont très mauvais.
I mean, I think Robert Heinlein has an undue influence in the States. I mean, you know, like, I mean, I was on a panel a couple of years ago, and some guy made a joke about Heinlein, you know, and the audience just went quiet, like, I mean, dead quiet. They didn't say, you know, they didn't laugh, they didn't react, and it was, you know, like that, you know, and like, I mean, it's just like, that's what I meant by the writers sort of imitating him more than they are really feeling. It's not an expression of what they really feel. You know?
I think I'm going to translate my own stuff, but I wanted to say, to see if you agreed with me. I think Robert Heinlein was a very, very good propagandist.
Right.
Including, and mostly when he wrote young adult novels.
Yeah.
I think he imprinted his ideology on the whole generation.
Yeah, yeah, I agree.
Yeah. Donc, il revient sur l'influence qu'a exercé Robert Heinlein sur le milieu de la SF américain. Bon, nous, on n'a pas idée, parce que Robert Heinlein, pour nous, c'est pas un écrivain de premier plan, sauf si on connaît vraiment l'histoire du genre, mais la plupart de ses bouquins sont introuvables en France. Hein. Et il raconte une anecdote, il participe à une table ronde dans une convention, puis l'un des participants a lancé une vanne sur Robert Heinlein, silence de mort dans l'assistance, personne n'arrive. Hein. Personne ne trouvait ça drôle. Et donc, moi, je lui demande s'il est d'accord avec la remarque que je fais, à savoir que Robert Heinlein, c'était un excellent propagandiste, surtout à l'époque où, dans les années 50, il écrivait des romans de SF pour la jeunesse, qui avaient un très grand succès, qui étaient très bons d'ailleurs, mais qui ont imprimé une idéologie, une certaine idéologie, sur toute une génération. Et il dit qu'il est parfaitement d'accord.
En fait, à une époque, on disait pas mal qu'il y avait ce thème des extraterrestres qui ressemblaient un peu à des insectes, qui n'avaient pas de volonté individuelle, qui n'avaient pas de... qui vivaient dans des espèces de grandes ruches, de grandes communautés géantes, et que c'était un petit peu une métaphore facile du communisme, de dire, bon, ben, en gros, ce sont des gens sans individualité, sans pensée propre, et en plus, c'est des animaux, donc on peut les tuer, ça tombe très bien. Et je me demandais si c'était un thème qui était toujours prédominant ou si maintenant il y en avait d'autres un petit peu de ce genre-là, comme métaphore des préoccupations politiques contemporaines.
She goes back to that whole cliché of science fiction about the alien bugs.
Mm-hmm.
You know, the alien society seen as a hive, kind of a hive. Yes, for instance.
Yeah.
And this was considered as a metaphor for communism.
Yeah,
you know, people with no personality, so we can shoot them up.
Right.
And she wondered if there are any other tropes or metaphors in science fiction about the other, the alien. No.
I don't really know. I haven't ever written. Well, you know, I've only written about aliens like a couple of times. You know, and, one was a story called The Traveler's Tale, where I had an alien who was on an island, but it was a sort of a ghost. You know, like, and then the other time was a story called The Sun Spider, which was like a mysterious creature on the sun. So, I mean, I haven't really done that myself, you know, just, you know, but like, I'm sure there are, you know, I just, you know, I'm not thinking of any right now, like, I mean, a lot of times, and for you talking about colonialism, aliens are funny, you know, like, I think that's one thing, I mean, there are a lot of, humorous, you know, aliens, like, I mean, George Lucas, you know, in the last series of Star Wars movies, I mean, he had some pretty racial stereotypes, and like, Keith Lawmer, you know, and people like that. I think there's a tradition of, you know,
Galaxy.
These goofy, sort of like we look down on them, kind of creatures. But that's different than the communist metaphor. That's more like the
natives.
Like Africa, Asia, you know, someplace like that. You know, I'm thinking about, but like it's sort of, you know, that seems to be one trope. You know, I don't know about any others. Like, well, then they have the other. I guess the other trope is like the aliens, like in 2001. You know, like a space odyssey. You know, like the secret masters of the universe. You know, which is, I guess, a metaphor for God. You know, like, and but you know, we seem to be. As far as writing goes, like science fiction writing anyway, like it seems to be very basic, very you know, like simplistic when they deal with them. You know, there was a guy named Roger Forward.
Robert Forward.
Robert Forward, who wrote really interesting. I mean, it wasn't the prose wasn't great, but like it's a very interesting novel about aliens. And you know, he seemed to have the idea in hand like, that they were other kinds of consciousness, I mean, were, instead of like archetypes, you know, for us, you know, but like not many people do that.
C'est pas un sujet en tant qu'auteur, c'est pas un sujet qui l'intéresse tellement. Il se rappelle, il a écrit deux nouvelles. Où il y a des extraterrestres, bon, il y en a d'autres, hein, je vais y revenir, une qui s'appelle Le récit du voyageur, qui est dans un vieux recueil de Noël, donc en fait, le voyageur, on pensait que c'était un alien, c'est plutôt une sorte de fantôme, donc c'est pas vraiment de la SF, et un récit qui s'appelle L'Araigne solaire. And you also wrote about aliens in a Barnacle Bill, of course.
Oh, yeah.
And that wonderful novel, Hands Up Who Want to Die. These are aliens, yeah. I think, yeah.
Kinda, you know. Kinda,
but we don't know. Yeah, you know, right. Donc je cite deux autres textes, Bernacle Bill, le spatial, qui est dans le recueil, c'est dans Sous des cieux étrangers, hein, je pense qu'on l'a réédité, voilà. Et une novella qui est aussi, encore inédite en français, qui s'appelle Hands Up, Want to Die, c'est Haut les mains qui veut mourir. Il y a deux créatures un peu bizarres qui sont peut-être des extraterrestres, mais ça, il ne veut pas le dire. Bon, et en fait, selon lui, il voit plus de deux façons. Les clichés dominants de représenter l'extraterrestre dans la SF, c'est d'abord comme des créatures bizarres et assez drôles, bon, popularisées au cinéma par les films de Georges Lucas, hein, notamment là, le horrible bestiole avec les oreilles, là, dont j'ai oublié le nom déjà. Et donc ça, c'est l'héritage de toute une tradition de la SF, bon, qui s'exprimait surtout dans la revue Galaxy, avec, bon, qui cite Keith Laumer, il y avait aussi les textes de Robert Shelley, etc. Et c'est un peu une façon méprisante de voir l'autre. Dire c'est des indigènes pittoresques qui sont amusants et inoffensifs, donc c'est encore une vision colonialiste, on peut dire. Et puis, par contraste, l'autre grand cliché, c'est comme dans 2001, c'est de voir les extraterrestres comme des êtres fondamentalement inconnaissables, les maîtres secrets de l'univers, donc une métaphore de Dieu. Et pour contrecarrer ça, il cite un contre-exemple qui est l'œuvre d'un auteur de SF qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui s'appelait Robert Forward, qui était avant tout, je me souviens, c'était avant tout un scientifique de pointe, qui était passionné de SF et qui a écrit quelques romans qui n'étaient pas toujours très très bien écrits, mais les idées étaient extraordinaires, parce que justement il avait un autre angle d'attaque, et quand il a écrit un roman sur les extraterrestres, il a honnêtement essayé de décrire une forme de conscience totalement différente. Et donc, Shepard trouvait le résultat très très intéressant.
Avoir un titre justement.
Alors Robert Forward. Alors le titre français, je sais pas. You remember the title of the book by Robert Forward? On peut regarder ça sur le site Nosphère ou autre. Ouais. Je sais qu'il y a eu un bouquin qui est paru chez Lafon. Hein, il y a un bouquin qui est paru d'ailleurs et de même. J'ai oublié le titre. Là. Il y en a un qui recherche là sur Internet. He's looking it up on the Internet.
Okay. I think if I do anything with aliens,
that fall out.
You know, it's my. I use aliens as like a reflecting device. You know, like instead of because I'm not really. I figure like It's something, the creatures are really alien that I'm not going to understand.
Excuse me, it wasn't that dragon's egg?
Yeah.
Voilà, c'est l'œuf du dragon. Sorry about
that.
Yes.
I mean, I figured that like Roger Ford, that they're going to be very alien and like most point of contact between them. And so I'm more interested in the human reaction, you know, to them, you know, like how humans behave in the face of unknowns and like, you know, just different ways they react, some with kind of belief, others with denial.
Like in a star seen through stone. That's a good, you know, that's a perfect example, I think.
Yeah. So, I mean, I'm not too big on writing the words, you know. It's,
yeah. En fait, l'alien, l'extraterrestre, avant tout pour lui, c'est un outil narratif. Ce qui l'intéresse essentiellement, c'est la réaction des personnages humains à l'étranger, à l'inconnaissable. Bon, et donc je lui rappelle un de ses textes qui est donc toujours dans Sous les cieux étrangers, qui est une novella, un gros roman, qui s'appelle Des étoiles entrevues dans la pierre. Alors qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que c'est un autre univers? Est-ce que c'est des créatures surnaturelles? On ne le sait pas. Toujours dit que là, il se passe des choses très bizarres, mais ce qui est au premier plan, c'est la réaction du narrateur, parce que c'est raconté à la première personne, et des gens qui l'entourent, dont la vie est bouleversée de façon très, très, très différente par ce phénomène. Et là, il y a, en fait, c'est dans ce texte qu'il y a ce qui, selon moi, est la parfaite définition de l'art de Shepard par lui-même. C'est quand il le dit, bon, je cite de mémoire, j'essayais, donc c'est son personnage qui parle, I'm quoting the story from memory. J'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait, comme peut le faire n'importe quel Américain un peu débile, nourri de mauvais films de science-fiction. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Pour moi, l'art de Shepard, c'est il regarde la réalité par le prisme d'un geek, quoi.
When I was with the Miskatiya Indians, I was tempted to use them as an alien race because they are very strange people. Like, I mean, not strange, like weird, but just that they're much different than Westerners. And like, but and they all take names like they adopt names based on American and European culture. Like, I know a guy named John Wayne Hitler. And like, you know, things like that, you know, so on. But I decided, you know, I couldn't really do it because everybody was thinking I was making fun of them, you know, like in some way. And I didn't want them to be funny aliens, you know. I wanted them to be. And I still struggle with, you know, how to figure that out and how I would write them, you know. But like, they're very, very weird people. Like, they're the only Indians who have no religion. You know, no religious impulse. Most Indians have, you know, complex cosmologies, and but they have very, they have nothing. You know, you live, you die. You know, blank. You know, and like and yet they do things with a lot of ritual. You know, like as if there is some meaning to this. So it's like I found that whole thing very, very interesting and very. But I've just never been able quite to get it right, you know, like how to say it, you know. But maybe I will.
Et il lui est arrivé une fois d'avoir envie d'écrire quelque chose à propos des Indiens mesquites, en les considérant comme une race extraterrestre, tellement ils étaient étranges à ses yeux. Il y a des trucs très très bizarres chez eux. Bon, c'est la seule peuplade indienne qu'ils connaissent qui n'ait strictement aucune religion. Même s'ils ont des rituels, il n'y a pas de religion. C'est on est, on vit, on meurt, point. Ça s'arrête là, quoi. Et par contre, ils ont des habitudes très étranges. Par exemple, ils se donnent des noms inspirés de la culture occidentale. Donc, il a connu un Indien qui s'appelait John Wayne, par exemple. John Wayne plus un nom indien. Et puis, il s'est rendu compte que pour l'instant, il ne pouvait pas, il ne voulait pas, parce qu'il ne voyait pas comment écrire sur eux sans donner l'impression de se moquer, de les tourner en dérision. Il ne voulait surtout pas tomber dans ce travers. Donc, il est encore en train d'y réfléchir. Peut-être qu'il arrivera à trouver le bon angle d'attaque, mais pour l'instant, c'est pas encore.
Yeah, they never explained to me, you know, the language, the Miskatiya language is very difficult, you know. I never did understand why they took these names, you know. Like, it was like, I mean, it wasn't because they admired Hitler or John Wayne. It was just like something, I have no idea, you know, like, but, you know, I always tried to get them to clarify it, but they wouldn't do it. They have a, they're sort of animist in a way, I mean, but like, I mean, they have a thing called the Duffy, you know, which is, but it's not a ghost, it's sort of an essence, you know, of a thing, you know, and like they talk about the sun Duffy and the tree Duffy, and, you know, like that, and it's like, but I mean, I know I'm not getting it right, you know, like I know I'm not understanding what they're talking about, really, you know, so yeah, it's pretty interesting.
There was a mention of a Duffy in the last chapter of Beautiful Blood, I think.
Oui,
donc il est toujours interloqué un peu par les Indiens Mesquite parce que il n'a jamais réussi à se faire expliquer leur langage. C'est quelque chose qui lui reste encore totalement étranger. Il n'a toujours pas compris pourquoi il se donnait ces noms inspirés de Hitler, John Wayne, etc. C'est pas une question d'admiration. C'est pas un totem, etc. Il ne sait pas pourquoi. Ils prennent ces noms à droite, à gauche. Et bon, il revient un peu sur ce que l'avait dit sur la religion. Peut-être y a-t-il un aspect vaguement animiste dans leur culture, parce que dans leur vision du monde, il y a des créatures surnaturelles, par exemple, qui s'appellent les Duppy. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est à leurs yeux, si c'est des génies, des monstres, etc. Donc, c'est encore pour lui, c'est le terrain incognita, ces Indiens.
Voilà. On a le chauffeur qui devrait arriver dans.
Yeah. I think it's a wrap.
Okay.
Je suis un peu désolé de.
Thank you.
Encore cinq questions.
Thank you. Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you.
Je suis journaliste à gauche matin. J'aurais juste une question pour l'auteur.
Oui.
Mais mon anglais est tellement mauvais que je ne savais pas où je là.
D'accord.
Je voudrais juste savoir ce que pense le genre de petit déjeuner en rencontre avec les auteurs.
The lady is a journalist for the local press. Yeah. She just wants to ask you a question. What do you think about this breakfast between with a writer and a few readers?
Oh, I like it. You know, like you know, I mean, I enjoy it, and like it's instructive to me because a lot of times I answer questions and it makes me understand things about, you know, what I'm doing, you know, that aren't clear before. Mm. And you know, aside from getting to meet nice people, like, you know, it's like, it's, you know, kind of a learning experience for any author. I think if he listens to them and listens to his audience and, like, you know, they say things that, you know, are relevant to his work and that he may not know, you know, so, yeah.
Oui, je vous donne une traduction rapide. Mais pour lui, c'est très très instructif. Il apprécie beaucoup parce que bon, répondre à des questions dans une telle ambiance, ça lui éclaircit les idées, ça lui apprend un peu plus des choses, ça précise quelques détails sur son travail, sur la façon dont il est perçu. Et bon, il adore rencontrer des gens comme ça, dans l'intimité, une telle ambiance. C'est très positif pour lui. Il est très content.
D'accord. Merci.
Je vous en prie.
Merci à vous.